بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو 12 من شهر جمادى الثاني عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس الثامن في قراءة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والباب هو أو الفصل هو المتعلق بالإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. Nous sommes le 12 avril 2014 et nous entrons aujourd'hui, inshallah ta'ala, dans le 8e cours de ce livre, les chapitres de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'imam Ibn Kathir rahimahullah. La semaine dernière, nous avons lu le chapitre qui concernait ou qui concerne la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le village de Ta'if. Vous vous souvenez que après les persécutions subies par les musulmans, les nombreuses persécutions subies par les musulmans, beaucoup de choses se sont déroulées. Et parmi ces dernières choses, le décès de l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, et enfin le décès de son épouse, Khadija, 3 jours après, radiyallahu anha. Ce qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait plus de protection, n'avait plus des piliers, ces piliers qu'il avait avant pour le protéger. Et alors les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, les kuffars, les associateurs de Quraysh, se sont mis à essayer de s'approcher de lui, de l'atteindre d'un mal. Ce qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sortir vers le village de Ta'if en compagnie de Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Il est arrivé là-bas et pensant que ces derniers allaient peut-être l'accepter, il s'est avéré qu'en fait ils ont refusé sa da'wa, ils ont refusé son prêche, ils ne l'ont pas accepté alayhi salatu wassalam, et ils l'ont repoussé et on lui a même envoyé des enfants qui lui ont jeté des pierres, qui l'ont lapidé sallallahu alayhi wa sallam. Donc beaucoup de choses se sont déroulées les unes après les autres qui ont fait naître en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam une tristesse, qui ont fait naître en lui une tristesse. Le prophète était triste sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala, à chaque fois qu'il voit son serviteur rencontrer des épreuves ou des situations qui sont difficiles, il lui ouvre tout le temps une autre porte. Comme il dit dans le Coran, inna ba'da al-usri fa inna ba'da al-usri yusra, inna ma'a al-usri yusra, afwan, fa inna ma'a al-usri yusra, inna ma'a al-usri yusra. Ce qui veut dire, certes il y a avec la difficulté une facilité, certes il y a avec la difficulté une facilité. Et les savants qui ont commenté ce verset ont dit, remarquez qu'ici Allah tabaraka wa ta'ala a cité une difficulté et deux facilités. Quand il nous parle de la difficulté, il nous parle de la même. Il nous dit, avec la difficulté, il y a une facilité. Puis ensuite il dit, avec la difficulté, c'est-à-dire la même dont on parle, il y a une facilité, c'est-à-dire une autre encore. Et à chaque fois que le serviteur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, rencontre une difficulté, s'il se montre endurant, il trouvera après celle-ci deux facilités. Et à plus forte raison, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après toutes ces douleurs, après toutes ces tristesses, après toute cette épreuve ou ces épreuves, Allah, tabaraka wa ta'ala, va l'élever. Il va l'élever en degré et il va l'élever physiquement aussi, puisqu'il va se passer ce qu'on appelle le voyage nocturne ou l'ascension nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nous allons lire, incha'Allah ta'ala. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit comme d'habitude, je lis la partie arabe et ensuite on la traduit. وَأُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَسَدِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلِي الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام فنزل ثم وأما بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا ثم للتي تليها ثم الثالثة ثم إلى التي تليها ثم الخامسة ثم التي تليها ثم السابعة ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. On fit voyager de nuit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم physiquement et non uniquement son âme. Tel est le plus juste des deux avis des compagnons et des savants de l'islam. De la mosquée sacrée de la Mecque à Jérusalem, où il descendit et dirigea la prière devant les autres prophètes. Au cours de ce voyage céleste qu'il effectua sur Al-Buraq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut accompagné par l'ange Jibril, que la paix soit sur lui. Puis la même nuit et du même lieu, il fut élevé au ciel de ce monde, puis au ciel supérieur, puis au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième et enfin au septième ciel. Au niveau de chaque ciel, il vit les prophètes, chacun au rang qui est le sien. Ensuite, il fut élevé au lotus de la limite, où il vit Jibril sous sa forme réelle, selon laquelle Allah Azza wa Jal le créa. C'est également au cours de cette nuit que les cinq prières obligatoires lui furent imposées. Donc, remarquez que dans cette partie, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous parle du voyage nocturne, ce qui est appelé Al-Isra wa Al-Mi'raj. Ce qui est voulu par le terme Al-Isra, Al-Isra huwa Sayru Bil-Layl, c'est le cheminement de nuit. Toute personne qui chemine pendant la nuit ou durant la nuit, ou toute personne qui voyage durant la nuit, cette action qu'elle fait, qui est celle de voyager durant la nuit, s'appelle en arabe Al-Isra. Ici, Al-Isra fait référence au voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de la nuit, lorsqu'il a quitté la Mecque pour aller jusqu'en Palestine sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, non pas pendant toute la nuit, mais seulement une partie de cette nuit. Et après, il y a eu ce qu'on appelle Al-Mi'raj. Et Al-Mi'raj, c'est l'ascension nocturne. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé par Allah Azza wa Jal physiquement et concrètement pour l'élever jusqu'au premier ciel, deuxième, troisième et ainsi de suite, jusqu'au septième et même un peu plus haut en la compagnie de Jibril alayhi salam et sur le dos de la monture que l'on appelle Al-Buraq. Et donc, sans aucun doute, c'est un miracle qui n'est arrivé qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est rapporté d'aucun prophète l'ascension nocturne qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fahuwa min khasa'isi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il fait donc partie des particularités du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et sans aucun doute, c'est un don de la part d'Allah, car il a pu voir énormément de choses. Il a vu des anges, il a vu les prophètes, il a vu le paradis, l'enfer, et il a vu énormément de choses, et tout cela en une seule nuit. Et il est redescendu sur terre dans le temps qu'on appelle Ghalas. Ghalas, c'est juste après le temps de la prière du Fajr, avant le Shuruq. Donc, en matinée, dès le matin. Sallallahu alayhi wa sallam. Et dans des hadiths, pour nous montrer la grandeur de ce voyage nocturne, de l'ascension, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je demande aux frères de se concentrer sur le cours et de ne pas regarder autre chose, et de ne pas rigoler, de ne pas sourire. Barakallahu fikum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait dans un hadith qu'il y a entre chaque ciel la distance de 500 ans. 500 ans. Peut-être 500 ans de marche, peut-être 500 ans d'autre que la marche. Quoi qu'il en soit, la distance qui sépare chaque ciel est immense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parcouru cette distance et il a donc traversé les sept cieux alayhi salatu wassalam. Et il est redescendu après tout ça en seulement une nuit. Et avant de faire tout cela, il a voyagé de la Mecque jusqu'à la région du Sham, vers la Palestine, où il y a la mosquée sacrée Al-Maqdis. Et donc, c'est vraiment un énorme miracle qui s'est produit dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que personne ne sait exactement quand est-ce qu'a eu lieu le voyage nocturne. On ne sait pas exactement en quelle année, on ne sait pas non plus exactement dans quel mois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ce voyage nocturne. Et le fait que l'on ignore la date de cet événement nous prouve qu'il fait partie des innovations religieuses non acceptées d'Allah tabaraka wa ta'ala, la célébration de cette nuit. Et certes, dans certains endroits, il y a des musulmans qui chaque année fêtent ce qu'ils appellent Laylatul Isra, la nuit ou la soirée du voyage nocturne, alors que les savants de l'islam ne savent pas quand est-ce qu'a voyagé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni l'année, ni le mois alayhi salatu wa sallam. Donc, sur quoi est-ce que ces gens se basent? Tout simplement sur des choses qui sont infondées et qui sont innovées et qui n'ont pas de base dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, s'il y avait une adoration légiférée pendant ce temps, sans le moindre doute, on aurait eu la date exacte et on aurait eu donc l'année et le mois exact. Mais puisqu'on ne sait pas, on ne peut pas dire telle soirée est la soirée du voyage nocturne et ensuite célébrer cette fête qui est une innovation et qui n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une chose importante à savoir, car beaucoup d'innovations se sont propagées au sein des musulmans qui n'ont aucun fondement dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans aucun doute, la raison de ces innovations, c'est le manque de connaissances et l'ignorance de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez ces personnes qui célèbrent la soirée du voyage nocturne ou bien l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont des personnes qui ne connaissent pas la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir un point important qu'on va souligner dans peu de temps, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc parcouru les sept cieux. Et il a même été plus haut que ça. Nous allons lire le hadith, Inch'Allah ta'ala. Et à chaque ciel, il a rencontré un des prophètes d'Allah, un ou deux des prophètes d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Au premier ciel, il a rencontré Adam, alayhi salam. Au deuxième ciel, il a rencontré les deux prophètes, Isa et Yahya, alayhim as-salam. Au troisième ciel, il a rencontré Youssouf. Au quatrième ciel, il a rencontré Haroun, le frère de Moussa, alayhi salam. Au cinquième ciel, il a rencontré Moussa. Au sixième, il a rencontré, Adam au premier, Yahya et Isa au deuxième, Youssouf au troisième, Idris au quatrième. Le prophète Idris au quatrième. Harun au cinquième, Moussa au sixième, Ibrahim au septième, alayhim salatu wassalam. Et ensuite, il est monté plus haut, comme on va le voir, inshallahu ta'ala. D'abord, avant qu'il monte, sallallahu alayhi wa sallam, Jibril est venu à lui. Il est venu dans la soirée, chez lui, alayhi salatu wassalam. Et il lui a demandé de l'accompagner. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est sorti de chez lui et il a accompagné Jibril. Et il a vu qu'une monture particulière et spéciale l'attendait. Ce n'est pas un animal que les gens ont l'habitude, sur lequel les gens ont l'habitude de monter. Cet animal, on l'appelle Al-Buraq. Al-Buraq, c'est une monture, une créature d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est plus grande que l'âne et plus petite que le mulet. Donc elle est entre les deux. Elle est plus grande qu'un âne et plus petite que le mulet. Et on l'a appelé Al-Buraq, car dans la langue arabe, cela vient de Al-Baraqan. Et Al-Baraqan, c'est la ma'an, la brillance ou la resplendissance. C'était donc une bête qui resplendissait et qui était illuminée, sur laquelle est monté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il est monté sur cette monture, il a parcouru cette longue distance qui sépare la Mecque de Jérusalem. Et cette monture qui est Al-Buraq, quand elle fait un pas, son pas arrive à la portée de sa vue. C'est-à-dire le maximum de ce que son œil ou sa vue peut atteindre, c'est le pas qu'elle fait. Donc vous pouvez vous imaginer les pas immenses et combien sont larges et grands les pas de cette monture. Donc il est arrivé en Palestine, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'endroit où il y a la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal lui a envoyé les prophètes qui sont descendus des cieux. Et ils ont tous prié derrière lui, sallallahu alayhi wa sallam, 2 rak'ah. Donc ils ont accompli une prière de 2 unités. C'est lui qui a dirigé cette dernière. Et derrière lui, il y avait les prophètes qui ont prié. Donc cela nous montre la grandeur du prophète d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car il a dirigé une prière derrière laquelle se tenaient debout les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qui est en relation avec cette prière. Ensuite, après cette prière, il est monté aux cieux. Mais d'abord, sachez que les prophètes sont morts, à l'exception de Isa alayhi salam. Isa n'est pas mort, Isa est vivant. Allah l'a élevé au ciel, comme on vient de le dire au deuxième, où il y a Yahya alayhi salam, avec son corps et son âme. Alors que tous les autres prophètes, eux, ont été élevés par Allah, ont été repris par Allah, ils sont morts. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a rencontrés, les savants disent, comme le Cheikh Abd al-Razzaq et les savants de la Sunna, qu'il a rencontré les âmes des prophètes, qui étaient reproduites sous l'apparence de leur corps. Car en réalité, leurs corps sont dans la terre. Sauf Isa. Isa, il l'a vu avec son corps et son âme. Et les autres prophètes, c'était leur âme reproduite sous la forme de leur corps. Alayhim as-salatu wa salam. Ensuite, il est monté. Et nous allons lire, inshallah ta'ala, le hadith dans lequel le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, nous le raconte. Ce hadith est rapporté par l'imam muslim selon Anas ibn Malik, radiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, Ataytu bil buraq. Je suis venu avec al buraq. C'est la monture dont on vient de parler. Puis il va nous la décrire. Wa huwa dabbatun abyad tawilun fawq al himar wa dun al baghl. C'est une monture blanche, grande, c'est une monture blanche, grande, plus grande que l'âne et plus petite que le mulet. يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَا طَرَفِهِ. À chaque fois qu'il fait un pas, ce même pas atteint la portée de sa vue. Le prophète a dit: Farakibtuhu hatta ataytu bayt al-Maqdis. Je suis monté sur le dos du Buraq jusqu'à arriver dans ce qu'on appelle Bayt al-Maqdis, la maison sacrée d'Allah Azza wa Jalla qui se trouve en Palestine. Et les maisons sacrées d'Allah sont au nombre de trois: Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque, Al-Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète à Médine, et Al-Masjid al-Aqsa, ou Al-Bayt al-Maqdis, la maison sacrée qui se trouve en Palestine. Celui qui prie une prière à la mosquée de la Mecque sera égal à, pardon, aura plus de récompenses, pardon. Une prière accomplie à la Mecque est plus grande que 100 000 prières, pardon, accomplies autre part. Une prière accomplie à Médine est plus, dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, est plus grande dans la récompense que 1 000 prières accomplies autre part, en dehors de la mosquée de la Mecque. Et enfin, celle-ci, la dernière, en Palestine, une prière accomplie là-bas est meilleure que 500 prières accomplies autre part. Et ce sont les trois mosquées qui sont les seules mosquées vers lesquelles on a le droit de voyager. C'est-à-dire que quand une personne veut voyager pour aller dans une mosquée, elle n'a le droit de le faire que pour ces trois mosquées. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui fait ses bagages pour se rendre dans une mosquée sera dans l'innovation religieuse si cette mosquée n'est pas une de ces trois mosquées. On n'a pas le droit de voyager pour aller dans une mosquée sauf ces trois. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit: قَالَ فَرَبِطُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَا. Une fois arrivé en Palestine, il a attaché cette monture avec un anneau utilisé par les prophètes pour attacher leur monture. قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ. Puis je suis entré dans la mosquée pour y prier deux unités. ثُمَّ خَرَجْتُ. Et donc, comme nous l'avons vu, il a prié ces deux unités accompagné des messagers. ثُمَّ خَرَجْتُ. Puis je suis sorti. فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Quand est venu à moi Jibril, بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ, avec un récipient contenant de l'alcool ou du vin et un autre récipient contenant du lait, pour lui demander de choisir, de faire le choix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: فَاخْتَرْتُ اللَّبَنِ. J'ai donc choisi le lait. فَقَالَ جِبْرِيلُ sallallahu alayhi wa sallam: اِخْتَرْتَ الْفِطْرَةِ. Jibril a donc dit: tu as choisi la prime nature, tu as choisi la nature saine, ce qui est bon et pur. فَجَاءَنِي جِبْرِيلَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ. Puis nous avons été élevés avec lui, avec Jibril, vers le ciel. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلَ. Donc arrivé au premier ciel, sachez qu'à chaque ciel il y a des anges qui sont chargés de veiller aux portes du ciel pour que personne n'y entre. Arrivé au premier ciel et à ses portes, Jibril a demandé à ce qu'on ouvre la porte. Faqila man ant. On lui a dit: qui es-tu? Il répond: Jibril. Puis on lui dit: wa man ma'ak. Qui est avec toi? Qala Muhammad. Il dit: Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilayh. Les anges du premier ciel ont dit à Jibril: et ça y est, on l'a envoyé en tant que messager. قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. Jibril a dit: oui, il a été envoyé en tant que messager. فَفَتَحَ فَفُتِحَ لَنَا. On nous a alors ouvert la porte. فَإِذَا أَنَا بِآدَمْ. Et je me suis retrouvé en la compagnie de Adam. Donc on parle du premier ciel ici. فَإِذَا أَنَا بِآدَمْ فَرَحَبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرِ. Je me suis retrouvé en la compagnie de Adam qui m'a accueilli et a invoqué Allah pour moi. ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ. Puis, on a été élevé jusqu'au deuxième ciel. Et on a demandé à ouvrir la porte. Jibril a demandé à ouvrir la porte. On lui a demandé avec qui il est. Jibril a dit qu'il est avec Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et après, on lui a dit: est-ce qu'il a été envoyé en tant que prophète? Oui. Et là, on lui a ouvert la porte du deuxième ciel. فَإِذَا أَنَا بِبْنَيِّ الْخَالَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمْ ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعوا لي بخير. Et je me suis retrouvé en la compagnie des deux cousins Isa et Yahya. Ils m'ont accueilli, c'est-à-dire qu'ils l'ont accueilli de la meilleure façon. Ils lui ont souhaité la bienvenue et ont invoqué Allah pour lui. Puis il est monté vers le troisième ciel. Jibril a demandé à ce qu'on ouvre la porte, après qu'on lui pose les mêmes questions qu'au premier et au deuxième. Puis une fois qu'il y est entré, il s'est retrouvé en la compagnie de Yusuf alayhi salam. Fa'idha ana bi Yusuf sallallahu alayhi wa sallam, je me suis retrouvé avec Yusuf. Idha huwa qad u'tiya shatr al-husn, et j'ai vu qu'on lui a donné la moitié de la beauté. Et Yusuf alayhi salam était un prophète qui était particulièrement beau. Il a reçu la moitié de la beauté alayhi salam. Farahaba wa da'a li bi khair, il m'a souhaité la bienvenue et a invoqué Allah pour moi. Thumma araja bina ila as-sama' ar-rabi'a, puis on nous a élevé au quatrième ciel. Jibril a demandé à ce qu'on ouvre la porte, après qu'on lui pose les mêmes questions qu'on lui pose à chaque ciel. Puis on lui a ouvert la porte. Fafutiha lana fa'idha ana bi Idris, et donc au quatrième ciel je me suis retrouvé avec Idris. Farahaba wa da'a li bi khair, il m'a souhaité la bienvenue et a invoqué Allah pour moi. Qala Allah azza wa jal wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Puis le prophète cite le verset où Allah azza wa jal nous parle d'Idris alayhi salam lorsqu'il dit ce qui veut dire wa rafa'nahu makanan 'aliyya, et nous l'élevâmes à un haut degré. Donc le haut degré qui a été cité par Allah azza wa jal ici, c'est le quatrième ciel vers lequel Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Idris alayhi salam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة, puis nous a élevé au cinquième ciel. فاستفتح جبريل, Jibril a demandé à ce qu'on lui ouvre la porte, et toujours après les mêmes questions qu'on lui pose, on lui ouvre la porte. فإذا أنا بهارون sallallahu alayhi wa sallam, et je me suis retrouvé avec Haroun. Farahaba wa da'a li bi khair, il m'a accueilli et a invoqué Allah pour moi. Puis on m'a élevé au sixième ciel. On a demandé à ce qu'on nous ouvre la porte, Une fois la porte ouverte, je me suis retrouvé avec Moussa alayhi salam, qui m'a accueilli et a invoqué Allah pour moi. Puis on m'a élevé au septième ciel. On a demandé à ce que la porte soit ouverte. Une fois la porte ouverte, je me suis retrouvé avec Ibrahim alayhi salam, qui appuyait son dos sur la maison peuplée. Au septième ciel, il y a Ibrahim alayhi salam, qui appuyait son dos sur la maison peuplée. Et la maison peuplée, c'est une maison qui ressemble à la Kaaba et qui se trouve au-dessus de la Kaaba. Donc cette maison est au septième ciel et elle est dans la longueur de la Kaaba. Elle est élevée au même niveau que la Kaaba, mais au-dessus. Et c'est une maison où les anges d'Allah tabaraka wa ta'ala viennent pour y accomplir le tawaf, pour tourner autour de celle-ci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque jour 70 000 anges viennent pour faire le tawaf dans cette maison, puis ils partent et ne reviennent plus. Et le lendemain, ce sont 70 000 autres anges, et ainsi de suite chaque jour. Donc vous pouvez vous imaginer combien est grand le nombre d'anges qu'Allah Azza wa Jal a créé. Donc il a rencontré Ibrahim alayhi salam, qui appuyait son dos sur la maison peuplée. فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُدُونَ إِلَيْهِ, et chaque jour 70 000 anges y entrent sans y revenir. ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, puis Jibril est venu avec moi jusqu'à ce qu'on appelle Sidratu al-Muntaha, qui a été traduit ici par le lotus. Mais Sidr, c'est plus l'arbre qu'on appelle le jujubier. Le lotus ou le jujubier. Quoi qu'il en soit, cet arbre a été appelé Sidratu al-Muntaha, le jujubier de la fin. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Parce que c'est à ce moment-là que Jibril alayhi salam s'est arrêté et n'a pas pu monter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à chaque instant, Jibril était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il montait dans chaque ciel. Une fois arrivé à cet arbre-là, Jibril n'avait plus le droit d'aller plus haut. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, avait le droit. Et d'ailleurs, il a demandé à Jibril et Jibril lui a dit qu'il ne peut plus. C'est sa limite, il ne peut plus monter. C'est pour ça qu'on l'a appelé le jujubier de la faim. Et on l'a appelé comme ça aussi, comme a dit Cheikh Abd al-Razzaq, parce que tout ce qui descend d'Allah Azza wa Jal vers les anges est récupéré à cet endroit-là par les anges. Il ne monte pas au-dessus de ça. Et c'est un arbre, c'est une création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit « وَإِنَّ وَرَقَهَا كَآذَانِ الْفِيَلَ » Il se met à décrire les feuilles de cet arbre. Il dit qu'elles ressemblent aux oreilles de l'éléphant. Donc vous voyez à peu près les oreilles de l'éléphant. Et c'est comme ça qu'ont été décrites les feuilles de cet arbre par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a décrit les fruits de cet arbre. Et en plus loin, il dit « قَالَ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَا تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا » Et plus loin, cet arbre a changé. Il est devenu encore plus magnifique qu'il ne l'était, à un point où aucune des créatures d'Allah, Azza wa Jal, est capable de le décrire tellement il était beau. Et à ce moment-là, فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى Allah m'a révélé, le prophète dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a révélé ce qu'il m'a révélé. Donc c'est à ce moment-là qu'il a reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui est cité dans Suratu An-Najm. Suratu An-Najm, c'est-à-dire l'étoile. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation d'Allah à ce moment-là. Puis il dit « فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً » Et à ce moment-là, Allah m'a légiféré l'accomplissement de 50 prières de jour comme de nuit. Donc à la base, les 5 prières que l'on fait ou que l'on accomplit, à la base, Allah nous avait demandé de faire 50 prières chaque jour. Mais à ce moment-là, quand il lui a demandé de faire 50 prières, le prophète dit « فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى sallallahu alayhi wa sallam » Je suis alors descendu jusqu'au niveau de Moussa. Donc après cet entretien avec Allah Azza wa Jal, il est descendu. Et il a rencontré Moussa dans son ciel. Le combien ? Le sixième. Et donc, Moussa a discuté avec lui et lui a dit « فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ » Qu'est-ce que ton Seigneur a légiféré à ta communauté ?« قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً » J'ai dit 50 prières. Moussa a dit « قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ » Moussa m'a dit « Retourne vers ton Seigneur, demande-lui l'allègement, demande-lui de diminuer le nombre des prières, car ta communauté ne pourra pas supporter. » فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ Puis il cite l'expérience qu'il a eue avec son peuple, le peuple de Banu Israël, qui n'a pas réussi à supporter ce qui leur était légiféré. قَالَ فَرَجِعْتُ إِلَى رَبِّي Le prophète dit, je suis donc retourné vers mon Seigneur. Donc il est remonté vers Allah, subhanahu wa ta'ala. فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِفْ عَلَى أُمَّتِي J'ai dit, oh mon Seigneur, allège sur ma communauté. فَحَطَ عَنِّي خَمْسَا Allah m'a enlevé 5 prières, ce qui fait 45. Puis le prophète est redescendu pour rencontrer Moussa. فَرَجِعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ حَطَ عَنِّي خَمْسَا Et j'ai dit à Moussa, Allah m'a allégé 5 prières. قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ Moussa m'a dit, ta communauté ne pourra pas supporter cela. فَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ Retourne donc vers ton Seigneur et demande-lui l'allègement. قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعْ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ حَتَّى قَالَ Il dit, je n'ai cessé de faire le va-et-vient entre mon Seigneur et Moussa À chaque fois, il remontait vers Allah. Allah lui enlevait 5 prières et il revenait vers Moussa. Et Moussa lui disait, retourne et demande-lui encore, car ta communauté ne va pas supporter. Et Allah, Azza wa Jal, lui a enlevé les prières 5 par 5, jusqu'à arriver à 5 prières. Et quand il est revenu à la fin, Moussa lui a dit, Ya Muhammad, pardon, Allah Azza wa Jal a dit, Ya Muhammad, إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة. الله عز وجل a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad, ce sont 5 prières qui te sont légiférées de jour comme de nuit. Chaque prière est équivalente à 10 prières, ce qui fait un total de 50. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala a allégé le nombre de prières, mais il a laissé la même récompense que les 50 prières initiales. Et ça, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les 5 prières que l'on accomplit aujourd'hui sont récompensées comme si que l'on accomplissait 50 prières par jour. فَذَلِكَ خَمْسُونَ الصَّلَةِ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٍ. Puis Allah Azza wa Jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a pour intention de faire une bonne action et qui après ne la fait pas, on lui consignera quand même une bonne action. فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا. Et s'il la met en pratique, on lui en écrira 10. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا. Et celui qui a l'intention de faire un péché et qui après ne le fait pas, on ne lui inscrira pas de péché. فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدًا. Et s'il met en pratique ce péché qu'il a eu l'intention de faire, on ne lui inscrira qu'un seul péché. قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَخْبَرْتُ. Le prophète dit, je suis donc descendu pour retrouver Moussa une nouvelle fois, pour l'informer de ce qui s'est passé. Moussa lui a dit, فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفِ. Retourne vers ton Seigneur et demande-lui l'allègement. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقُلْتُ قَدْ رَجِعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهِ. Et le prophète عليه الصلاة والسلام dit, il dit, je suis retourné vers mon Seigneur, je n'ai cessé de faire des allers-retours vers mon Seigneur jusqu'à éprouver de la pudeur. Donc, arrivé à 5 prières, il a eu honte de demander encore à Allah Azza wa Jal de lui diminuer le nombre de prières. Et ce sont donc 5 prières que nous accomplissons. À cette partie, les savants attirent l'attention des musulmans sur un point de la plus grande importance. Concernant ceux qui fêtent ou qui célèbrent la commémoration de cette nuit, cette innovation qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas. Les savants s'étonnent de voir qu'Allah Azza wa Jal a légiféré pendant cette nuit la prière. Déjà, avant de rentrer dans ce sujet, la prière est un des meilleurs actes chez Allah, puisqu'il a été légiféré par Allah Azza wa Jal en s'adressant directement à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que pour les autres actes légiférés par Allah, il envoyait Jibril comme intermédiaire. Et c'est donc Jibril qui venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, Allah t'a ordonné de jeûner, Allah t'a ordonné de lutter, Allah t'a ordonné de telle et telle chose. Par contre, pour la prière, il l'a fait sans intermédiaire. Il a chargé Jibril alayhi sallam, il n'a pas chargé Jibril alayhi sallam, mais il s'est chargé lui-même de s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui nous montre la grandeur de la prière chez Allah Azza wa Jal. Puis les savants ici disent, et il est étonnant de voir que des gens délaissent la prière ou ont des manquements considérables dans la prière qui a été légiférée dans cette nuit, et ces mêmes personnes fêtent cette nuit. Ces mêmes personnes font la fête ou célèbrent la nuit du voyage nocturne, alors qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle a eu lieu. Et alors que dans cette nuit, c'est la prière qui a été légiférée, et ces mêmes personnes ont des manques dans la prière. Et parfois, ce sont des prières des personnes qui ne prient même pas. Donc vous voyez le manque de compréhension des gens, et c'est ce qu'il faut corriger dans les cœurs des gens en étudiant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: واختلف العلماء هل رأى ربه عز وجل أم لا على قولين فصح عن ابن عباس أنه قال رأى ربه وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك قائلة وقالت هي وابن مسعود إنما رأى جبريل وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه وفي رواية رأيت نورا فهذا الحديث كاف في هذه المسألة. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous cite une divergence qui a eu lieu entre les savants de la sunna. Il dit: les savants ont divergé sur cette question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours de ce voyage, a-t-il vu ou non son Seigneur Tout-Puissant? Il est ainsi rapporté de sources sûres qu'Abdullah ibn Abbas a dit: il a vu son Seigneur. Néanmoins, selon une autre version, il aura dit: il l'a vu par son cœur. En revanche, Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur recueil authentique que Aïcha radiallahu anha réfutait l'affirmation selon laquelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait vu son Seigneur. Aïcha et Ibn Mas'ud affirmaient que c'était uniquement Jibril que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu. Par ailleurs, Muslim rapporte dans son sahih, d'après Qatada, d'après Abdullah ibn Shaqiq, qu'Abu Dharr radiyallahu anhu demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'il avait vu son Seigneur. Il répondit: une lumière, comment aurais-je pu le voir? Selon une autre version, il aurait répondu: j'ai vu une lumière. Ce hadith suffit amplement à trancher cette question. Donc, ici, la question qui a été soulevée par l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, est un sujet de divergence chez les savants de l'islam, qui est: est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah azza wa jal, ou bien est-ce qu'il ne l'a pas vu? Et les compagnons, les sahaba radiallahu anhum, ou les salafs et les plus prédécesseurs, et les savants ont deux paroles sur cette question. Le premier avis, c'est ceux qui ont dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a véritablement vu Allah subhanahu wa ta'ala au cours du voyage nocturne. Après qu'il s'est élevé au-dessus du septième ciel, il était seul à seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième avis, c'est ceux qui ont dit qu'Allah azza wa jal n'a pas été vu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il l'a vu par son cœur. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas vu véritablement. Il a été proche de lui, il s'est adressé à lui, il l'a entendu, il y a eu une proximité entre eux, mais pas au point de le voir véritablement. Subhanahu wa ta'ala. Comme nous l'a dit Ibn Kathir, le premier avis a été rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhum, et c'est un avis qui est authentique. Et il a été rapporté par At-Tirmidhi, rahimahullah. Et ou autre. Donc c'est le premier avis qui est venu d'Ibn Abbas. Mais Ibn Abbas lui-même, radiyallahu anhuma, nous dit une autre fois, il l'a vu avec son cœur. Al-Sheikh Abdelrazzaq, hafidhahullah ta'ala, qui explique ce point ici, et qui est un spécialiste dans l'aqidah, dans la croyance, puisque c'est une question de l'aqidah, il dit qu'en fait, ce qui est juste, c'est de dire que les deux versions d'Ibn Abbas n'ont aucune contradiction. Dans la première, c'est une information absolue. C'est-à-dire, et on nous dit qu'il a vu son Seigneur. Dans la deuxième, c'est une information détaillée qui détaille l'absolu qui n'a pas été détaillé. Donc, quand il nous dit qu'il l'a vu, la deuxième fois, il nous dit qu'il l'a vu avec son cœur. C'est-à-dire, il ne l'a pas véritablement vu avec ses yeux. Le Cheikh Abd al-Razzaq a dit, et avec ça, il ne nous reste plus de contradiction dans les versions des compagnons. Et c'est pour ça que Aisha radiallahu anha et Ibn Mas'ud radiallahu anha ont réfuté le fait qu'il ait pu le voir directement sallallahu alayhi wa sallam. Puis il cite le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, dans lequel Abu Dharr radiallahu anhu a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: ô messager d'Allah, as-tu vu ton Seigneur? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une lumière, comment aurais-je pu le voir? Et Allah dans le Coran dit: Allahu nuru samawati wal ard, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc c'est ce qui a été retenu par le shaykh hafidhahullah ta'ala, que le prophète n'a pas vu Allah azza wa jal réellement avec ses yeux sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour cette question. Ibn Kathir a dit: wa lamma asbaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى فاشتد تكذيبهم له وآذاهم واستجراؤهم عليه. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouva chez les siens à la Mecque, donc au matin du voyage nocturne, une fois avoir vu toutes ces choses-là, il les informa des signes grandioses qu'Allah lui avait permis de voir, ce qui ne fit qu'ajouter à leur mécréance et à leur persécution envers lui. Alayhi salatu wassalam. Le prophète revient. Vous pouvez vous imaginer tout ce qu'il a vu. Il a voyagé vers la Palestine. Il a prié avec tous les prophètes. Il a vu le premier, deuxième, troisième, jusqu'au septième ciel. Il a même vu le paradis, l'enfer. Il a vu énormément de choses. Et il revient. Et au matin, qui est-ce qu'il rencontre? Comme c'est venu dans une version du hadith, Abu Jahl. Abu Jahl, un des pires ennemis de l'islam, qui arrive comme ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interpelle et l'informe de tout ce qu'il vient de voir la nuit passée. Abu Jahl est un mécréant, il ne croit pas à tout ça. Quand il entend ça, il éprouve de la joie. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il éprouve de la joie? Naam. Naam. Barakallahu fik. Exactement. Il éprouve de la joie parce qu'il se dit: ça y est, je vais utiliser cette information que Mohammed m'a rapportée pour dissuader les gens de croire en lui. Je vais aller voir les gens et leur dire: avez-vous entendu ce que cette personne raconte? Elle dit qu'elle a vu les sept cieux, elle dit qu'elle a vu les prophètes, etc. Et dans la version, Abu Jahl a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: veux-tu que je réunisse les gens pour toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui. Abu Jahl appelle les gens. Les gens se réunissent. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à leur donner ces informations. Qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes commencent à taper des mains et à applaudir. D'autres personnes se tiennent la tête avec leurs mains. Tellement l'information est immense, Elles ont eu ces réactions, et aussi pour montrer qu'elles n'y croyaient pas. Donc pour le prendre à la dérision, à la moquerie. Le prophète est en train de leur expliquer tout ce qu'il a vu, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'applaudissent et ils se tiennent la tête. Comme si qu'ils disaient: qu'est-ce que tu nous racontes? Qui va te croire? Ô Mohammed, qui va te croire? C'est ce qu'ils ont voulu faire. La version qui a été authentifiée, c'est rapportée par Aisha radiallahu anha. قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك. Lorsqu'on a élevé au ciel le prophète صلى الله عليه وسلم et qu'on l'a fait voyager de nuit vers la Palestine, les gens se sont mis à parler au matin. Ils se sont mis à discuter et à dire entre eux: avez-vous vu ce que Mohammed raconte? Il raconte aux gens qu'il a été en Palestine, et qu'il a été faire les sept cieux en une nuit. Il dit aux gens qu'il a vu le paradis, l'enfer, qu'il a vu tous les prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Certains des musulmans ont apostasié. Subhanallah. Certains des musulmans qui étaient faibles dans leur foi, quand ils ont entendu cette information, ont quitté l'islam. Et ils sont revenus au kufr. Wal'iyadu billah. فَارْتَدَّ نَاسٌ مِمَّنْ كَانُوا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوا. Et des gens qui auparavant ont cru en lui et l'ont suivi, ont quitté l'islam. Et qu'est-ce que tu tires ici comme leçon? Tu tires que des fois, tu apportes à des gens le haq, la vérité. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Ces gens fuient. Est-ce que tu dois t'arrêter de dire le haq parce que ces gens fuient? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté une vérité. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils n'ont pas fui la sunna, ils ont fui le din, ils ont fui l'iman. Ils sont sortis de la foi en Allah azza wa jal. Et aujourd'hui, on entend des gens qui disent que si on parle dans al-manhaj, dans la méthodologie à suivre, si on parle dans l'aqidah, dans la croyance, les gens vont fuir, alors il faut arrêter de parler de ça. Ce n'est pas la voie de l'islam. Ce n'est pas la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était sa voix, il n'aurait pas donné ces informations à ces gens-là. Regardez, il vient et il leur transmet ce qu'Allah veut. Il sait que c'est Allah qui guide les cœurs. Et que s'il s'égare, ce n'est pas à cause de lui qui transmet la vérité, mais c'est seulement à cause de ces gens-là qui n'ont pas voulu accepter cette vérité. Ça, c'est la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les gens ont quitté l'islam, ou certaines personnes. وَسَعَوْ بِذَلِكَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ. Et alors le peuple de Quraysh est parti voir Abu Bakr. Pourquoi? Car c'est le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque. Et ils vont essayer de le dissuader. Qu'est-ce qu'il se passe? فَقَالُوا هَلْ لَكَ إِلَىٰ صَاحِبِكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسِرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. Et donc ils lui disent: as-tu vu ce que dit ton compagnon? Il prétend qu'il a voyagé de nuit jusqu'à la maison de Palestine, la maison sacrée. Qala, ou qala dhalik, ou qala dhalik. Abu Bakr a dit: a-t-il véritablement dit ça? Parce qu'Abu Bakr n'avait pas encore entendu cette information, il n'avait pas encore vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qalu na'am, oui, répondirent-ils. Qala la in kana qala dhalik laqad sadaq. Abu Bakr a dit immédiatement: s'il a vraiment dit ça, alors il a dit vrai. قالوا أوتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح. Et ils ont dit à Abu Bakr: tu le crois vraiment qu'il est parti pendant la nuit de la Mecque jusqu'en Palestine et qu'il est revenu au matin? Tu crois vraiment à ça? Abu Bakr a dit: قال نعم إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك. أصدقه بخبر السماء في غدوه أو روحه فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Abu Bakr a dit: oui, bien sûr, et d'ailleurs je crois à quelque chose de plus loin que ça encore. Je crois qu'il vient avec des informations du ciel le matin et le soir. Et c'est suite à ça qu'il a été surnommé الصديق. الصديق, c'est celui qui rend véridique des informations. Et on l'a surnommé comme ça parce qu'il a été ferme à cette information quand il l'a entendue et qu'il l'a rendue véridique aussitôt et immédiatement. Radiyallahu an. Et cet événement a fait augmenter la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a également fait augmenter la foi de ses compagnons qui ont cru en lui. Quant à ceux qui ont apostasié et qui ont quitté l'islam, ils ont été tués dans le combat. Ou pardon, ils ont été exécutés en tant qu'apostats. Car dans l'islam, l'apostat, il était exécuté. Eux, ils avaient apostasié. Résultat, ils sont morts apostats et ils ont été exécutés. Wal'iyadu billah. Également, au cours de ce voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une fois Djibril sous sa véritable apparence. Donc quand Djibril venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait sous la forme d'un homme. D'ailleurs, il prenait l'apparence du compagnon qui s'appelle Dihya, Dihyatul Kalbi, radiyallahu anhu. C'était un des plus beaux compagnons. Et d'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait savoir si Jibril était passé par là, il disait à ses compagnons, avez-vous Dihya? Avez-vous vu Dihya passer? Si on lui disait oui, il savait que Jibril était dans les parages. Alayhi salam. Donc, il a vu Jibril. Donc Jibril est d'abord venu à lui sous l'apparence humaine. Arrivé à Sidratul Muntaha, à cet arbre, à la limite, Jibril est venu sous sa véritable apparence. Et sa véritable apparence nous a été décrite dans un hadith dans lequel le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que Jibril a 600 ailes. Il a 600 ailes et il recouvre tout l'horizon. Alayhi salam. Donc, ça c'est la deuxième fois où il l'a vu. La première fois, c'est à Mecca, quand Jibril l'a appelé et qu'il a levé sa tête et il l'a vu sous sa véritable apparence. Ces deux fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril sous sa véritable apparence nous ont été cités dans Surat al-Najm, l'étoile, dans les versets où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Donc Allah Azza wa Jal ici nous parle de ce qui s'est passé pendant la nuit du voyage nocturne. Allah Azza wa Jal nous dit, et ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Jibril à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. L'horizon supérieur, c'est en haut, donc des cieux. Puis Allah Azza wa Jalla dit ce qui veut dire, donc dans la suite, فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, c'est-à-dire, donc, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à deux portées d'arc, ou plus près encore. Donc Jibril était très près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Ma kadhaba al-fu'ad ma ra'a, afatumarunahu ala ma yara, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, inda sidratil muntaha. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de Sidratul Muntaha. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu deux fois Jibril. Et ici, les deux fois qui sont citées sont les deux fois où il l'a vu sous sa forme réelle, celle où il a 600 ailes avec lesquelles il recouvre l'horizon. Alayhi salam. Enfin, Ibn Kathir dit, وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ ويقول من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب فكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش عنه إنه كاذب إنه ساحر إنه كاهن إنه شاعر أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء وأما الألباء إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون. À la recherche du soutien des tribus arabes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mit alors au cours de la saison du pèlerinage à chercher le soutien des tribus arabes. Il disait, quel homme est en mesure de me conduire chez les siens et de me protéger de sorte que je puisse transmettre le message de son Seigneur? Car Quraysh m'empêche de transmettre le message de mon Seigneur. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande protection? Est-ce que c'est parce qu'il a peur qu'on lui fasse du mal? Est-ce que c'est parce qu'il a peur pour sa vie? Il n'a pas peur pour sa vie, il n'a que faire de ce bas monde. Mais c'est simplement pour protéger le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc lui, il ne se souciait pas d'être touché, d'être atteint d'un mal. Mais ce qui le souciait, c'est la da'wah. Il portait en lui le souci du prêche, le souci de la propagation du message d'Allah, le message de l'islam, subhanahu wa ta'ala. Donc il cherchait qui le protéger. On tire également une autre leçon qui est que le prêcheur a besoin de soutien. Quand le prêcheur n'a pas de soutien, son prêche se propage difficilement. Vous avez l'exemple de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, qui a vécu toute sa vie, la majeure partie de sa vie en prison. Il n'était pas connu. Il avait des élèves qui le connaissaient, mais ses écrits n'ont pas été propagés durant son vivant, mais plutôt après sa mort. Longtemps après sa mort, Allah tabaraka wa ta'ala a assujetti des hommes qui se sont mis à regrouper les écrits du shaykh, rahimahullah, pour les propager. Donc le prêcheur a toujours besoin de soutien, dans tous les sens du terme, financier, moral, physique, dans l'expérience, dans certains domaines et dans toute autre chose dont le prêcheur ne peut se passer. Son oncle Abu Lahab, qu'Allah le maudisse, donc c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un ennemi de l'islam. Derrière lui, il disait quant à lui aux gens, ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Les tribus arabes se méfiaient et s'écartaient donc de celui que Quraysh décrivait comme un menteur, un sorcier, un devin ou un poète. Autant de mensonges qu'ils avaient inventés. Mais que croyaient ceux des arabes qui manquaient de discernement. En revanche, les hommes et les femmes doués de raison, après avoir entendu les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les avoir compris, se rendaient compte qu'ils disaient la vérité et que Quraysh mentait à son sujet. Ainsi, ils embrassaient l'islam. Or, Allah fit en sorte que les futurs soutiens Ansar du messager d'Allah, et on va s'arrêter ici car c'est un autre chapitre, un autre passage. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tour des tribus arabes pour demander le soutien, car il venait de perdre le soutien de son oncle Abu Talib qui était mort. Et on ne l'a pas accepté. Quand il est arrivé chez cet homme qui s'appelle Al-Mut'im ibn Adi, Al-Mut'im ibn Adi a accepté d'accorder l'hospitalité au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le protéger. Suite à cette hospitalité que lui a offerte Al-Mut'im ibn Adi, le prophète a pu continuer à prêcher et à propager le message de l'islam sans qu'on ne l'atteigne d'un mal. Mais Al-Mut'im ibn Adi ne s'est pas pour autant converti à l'islam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quand même gardé à l'esprit ce bien que cet homme lui avait fait. À un point où cet homme était donc mort juste un peu avant l'émigration, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له » Lors des prisonniers de la bataille de Badr, les musulmans ont eu des captifs. Ils ont eu des hommes qu'ils ont constitués prisonniers. Et des gens sont venus pour essayer de négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur libération. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si Al-Mut'im ibn Adi était vivant, je les aurais libérés, je lui aurais donné s'il me l'avait demandé. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se souvenait du bien que les gens lui faisaient, même si ces gens n'étaient pas pour autant musulmans. Donc on a accepté de lui accorder la protection et l'asile et il a continué à propager l'islam. Quand les koufars de Quraysh ont vu que le prophète avait une protection, ils sont passés à une autre étape encore, qui est d'essayer de dissuader les gens de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce faire, ils se tenaient aux abords de la Mecque et à l'entrée de ce village ils attendaient toutes les personnes qui venaient entrer à la Mecque pour leur dire, fais attention, il y a un homme à la Mecque, il s'appelle Mohammed, c'est un sorcier, un devin, c'est un voyant, et il ensorcelle les gens avec ses paroles. Il fait croire aux gens qu'il est un prophète, et il dit aux gens de le suivre. Il nous a insultés, il nous a séparés, il nous a fait, il nous a fait, il nous a fait. Et les gens, quand ils entendaient le peuple de Quraysh, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rentraient à la Mecque et ils ne voulaient pas suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces gens, il y avait Tufayl ibn Amr al-Dawsi, radiyallahu anhu. Celui dont on a parlé la semaine dernière, quand il s'est converti à l'islam, le prophète, alayhi salatu wa sallam, a invoqué Allah pour lui et il a une lumière dans son visage. Vous vous souvenez de cette histoire? Quelle est l'histoire de la conversion de cet homme-là? Elle a été relatée par l'imam Ibn Ishaq, un biographe. Il dit: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى سَلَّمْ عَلَى مَا يَرَى قَوْمُهُ يَبْذُلُ لَهُمْ النَّصِيحَ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجَاةِ مِمَّا هُمْ فِيهِ وَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ حِينَ مَنَعَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ يُحَذِّرُونَ النَّاسِ يُحَذِّرُونَهُ النَّاسِ وَمَنْ قَدِمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَرَبِ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de prodiguer le conseil et d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Quraysh a vu qu'il était sous la protection d'une personne, ce peuple s'est mis à passer à l'étape de la mise en garde, c'est-à-dire de mettre en garde les gens contre lui. Encore une fois, on tire une leçon. Celui qui porte le haq, on va essayer avec les arguments de le faire taire. Si on n'y arrive pas, on va essayer de l'atteindre physiquement, même dans son honneur, on va mentir sur lui, etc. Si on n'arrive pas, on va essayer de dissuader les gens de suivre sa da'wah. Et ça, c'est ce que subit les gens de la sunna quand ils prêchent aux gens le haq. C'est ce qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit, parmi les gens qui ont eu cette mise en garde de Quraysh contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi qui dit au sujet de sa propre personne: j'étais un homme poète, j'étais élevé chez mon peuple, je suis allé à la Mecque en marchant, je suis allé à la Mecque en marchant et j'ai rencontré des hommes de Quraysh qui m'ont dit: ô Tufayl, tu es un homme poète, obéi, élevé dans ton peuple. Et nous avons peur que tu ne rencontres cet homme et qu'il ne te touche avec sa parole par une sorcellerie. De qui est-ce qu'il parle? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il vient, il ne le connaît pas. Il arrive, on l'attrape, on lui dit: attention, il y a un sorcier. Réfléchissez. Si tu entres dans un village où tu ne connais pas certaines personnes, des personnes que tu connais viennent te dire: attention, il y a un sorcier. Quel est l'effet que ça va avoir? Dans la majeure partie des cas, tu vas croire à ce qu'on va te dire. Et c'est ce qui a été le cas pour Tufayl. On lui a dit: attention, Mohammed est un sorcier. On a peur qu'il te touche avec sa sorcellerie. Fahdharhu, prends donc garde qu'il entre vers toi et qu'il ne t'atteigne avec ses paroles. Car il a séparé le fils de son père, l'époux de son épouse, l'homme de son frère. C'est-à-dire que quand il est arrivé qu'il a appelé à l'islam, dans des familles, il y a des gens qui ont choisi l'islam et d'autres qui sont restés sur le polythéisme. Donc, ils se sont séparés, ils sont devenus des ennemis. Lui, eux, ils sont venus, ils ont dit à Tufayl: ne suis pas Mohammed, il divise les familles. Il divise les familles. Ici, on tire encore une leçon. C'est que celui qui appelle au haq, à la vérité, il y a les gens qui sont en face de lui qui vont se diviser en ceux qui vont le suivre, ceux qui ne vont pas le suivre. Donc forcément, en apparence, il y aura une division. Cette division n'est pas blâmable, elle est méritoire. Car Allah tabaraka wa ta'ala veut diviser et distinguer le vrai du faux. Donc qu'est-ce que les gens du faux vont dire? Des gens de la sunna, ils divisent. Pourquoi? Parce qu'ils ont appelé les gens à la sunna et que certains les ont suivis. Donc on va les accuser comme étant des gens qui divisent. Qui divisent quoi? Si ce n'est le faux du vrai. et c'est une chose qui est louable chez Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit par Allah, At-Tufail raconte lui-même, il dit: je jure par Allah qu'ils n'ont cessé de me parler de lui et de m'interdire de l'écouter jusqu'à ce que je me suis dit en moi-même, par Allah, je n'entrerai pas dans cette mosquée, la mosquée de la Mecque, sans me boucher les oreilles. J'ai donc pris du coton et je me suis bouché les oreilles avec, jusqu'à arriver à côté de la mosquée. Et j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, debout dans la mosquée. Je me suis rapproché de lui et Allah azza wa jalla a voulu me faire écouter certaines de ses paroles. Donc il avait le coton dans ses oreilles, mais il a quand même entendu le Coran récité. Et alors, il a commencé à être curieux. Il a été attiré. Il dit: je me suis dit en moi-même, par Allah, je ne suis pas incapable. Par Allah, je suis quelqu'un de doué, qui est doué de raison. Et je fais la différence entre les bonnes paroles et les mauvaises. Par Allah, je vais aller l'écouter. Je vais écouter ce qu'il dit. Si ce qu'il dit est bien, je le prends. Si ce qu'il dit est mauvais, je m'en éloigne. J'ai donc enlevé le coton de mes oreilles et je l'ai jeté au sol. Puis je me suis mis à écouter attentivement ce que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je n'avais jamais entendu de paroles plus belles que ces dernières. Et donc il enlève le coton, il écoute le Coran. C'est un poète, il sait comment les poètes parlent, il sait comment les sorciers parlent, il sait comment. Il écoute, il dit: par Allah, je n'ai jamais entendu une parole plus belle que celle-là. Il parle du Coran. Ensuite il dit: je me suis dit en moi-même, ya subhanallah, je n'ai jamais entendu de parole plus belle que celle que j'ai entendue aujourd'hui. Puis j'ai attendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai suivi quand il est parti. Je suis rentré dans sa maison et je lui ai dit: oh Muhammad, ton peuple est venu me voir et m'a dit telle et telle chose. Je l'ai donc informé de ce qu'ils m'ont dit. Et Allah Azza wa Jal a refusé, Allah Azza wa Jal a voulu que j'écoute tes paroles. Et j'ai ressenti en moi-même que tes paroles sont des paroles de vérité. Elles ne sont pas de la poésie. Alors, écoute ce que je vais te dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: donne-moi ce que tu veux dire. Et il s'est mis à réciter. C'est pour faire la comparaison avec la récitation du Coran. Il a dit: moi je suis un poète, toi tu as récité une parole, écoute-moi, moi aussi je vais te réciter. Et alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: fais-moi écouter. Et il se met à lui réciter des vers de poésie. Une fois terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: et moi aussi je vais te dire quelque chose, écoute-moi. Il dit: bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord il dit: a'udhu billahi minash shaitan ar-Rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Ensuite il récite قل أعوذ برب الفلق. Ensuite il récite قل أعوذ برب الناس. Et là Tufail écoute et il fait la comparaison. Il voit qu'il n'y a absolument rien à voir. Il voit que le Coran n'a rien à voir avec le shi'r, avec la poésie. Et il s'est converti à l'islam. Il dit: je n'ai jamais entendu quelque chose de plus beau que ça. Et il s'est converti à l'islam et il est devenu croyant. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Et avec ça, on a terminé ce passage. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.